Je reviendrai là-dessus. Celui qui a posé la question, il sait, il sait de qui. Je vais continuer avec vous cette étude du DNT Sancia, c'est-à-dire la position de saint Thomas dans le DNT Sancia. C'est difficile, hein? Alors, soyez attentifs, essayez de comprendre ce que ça peut signifier. Je vous rappelle que Gilson considère que c'est un point extrêmement important. Le premier Gilson dit que c'est la clé de tout saint Thomas. Et le second Gilson dit un peu moins. Autrement dit, le premier Gilson croit que dans le DNT Essentia, nous découvrons l'argument type de saint Thomas. Et ensuite, Gilson va revenir sur cette position. C'est pas étonnant, le DNT Essentia, donc, je vous le disais la dernière fois, représente une réflexion philosophique, la première réflexion philosophique de saint Thomas. La seconde, ce sera le contrat Gentiles. Je crois qu'il y a deux positions philosophiques très intéressantes dans la position de saint Thomas, dans cette réflexion que nous faisons pour comprendre comment saint Thomas progressivement voit que l'intelligence humaine est capable de remonter jusqu'à l'exister de Dieu. Première position, que nous avons vue la dernière fois, la position des sentences, où saint Thomas entre dans la traduction, dans la tradition, avec son génie particulier. Ici, il y a cette réflexion, alors je reprends ce texte du DNT, qui est une réflexion d'ordre philosophique. Tout ce qui n'appartient pas au contenu intelligible de l'essence ou de la quidité lui advient de l'extérieur et fait une composition avec l'essence. Parce qu'aucune essence ne peut être saisie par l'intelligence sans les éléments qui en sont les parties. Donc ça, c'est comme une grande majeure. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez difficile à bien saisir, mais au fond, on est tout à fait dans la perspective avicénienne. Avicenne voit, il faut comprendre ça, il faut qu'on se rappeler ce qu'Avicenne dit. Avicenne voit les essences sont pensés éternellement par Dieu. Ce qui est tout à fait juste. Les essences sont là. Et les essences existent selon le bon plaisir de Dieu, auquel advint à ses essences l'exister. Il y a les deux aspects. C'est un peu une réification, une séparation, d'une distinction qu'on fait par rapport à la réalité. Alors, il y a le monde des essences. Vous savez que ce monde des essences, hein, des essences en soi, le bien en soi, les formes en soi, c'est tout à fait le point de vue platonicien. On les voit en Dieu, dans l'intelligence de Dieu. Dieu pense éternellement ses essences. Ses essences en soi, pour bien montrer le platonisme. Et puis, il y a l'exister. Il y a l'essai. Alors, l'essai est participé et provient. Provient de la volonté créatrice de Dieu. Alors, l'exister va s'ajouter à l'essence. L'essence est de l'ordre du nécessaire et l'essai est de l'ordre du contingent. Une fois que vous avez saisi ça, vous comprenez très bien la majeure de saint Thomas. Tout ce qui n'appartient pas au contenu intelligible de l'essence ou de la quidité lui advint de l'extérieur et fait une composition avec l'essence, par qu'aucune essence ne peut être saisie par l'intelligence sans les éléments qui en sont le parti. Donc c'est de l'ordre du nécessaire. Et puis l'essai vient s'ajouter. Or, toute essence ou quidité d'une réalité peut être saisie par l'intelligence sans que soit saisi quelque chose de l'essai de cette réalité. Je puis en effet saisir ce qu'est l'homme ou le phénix, c'est merveilleux. C'est du même ordre au point de vue de l'essence. L'essence du phénix et l'essence de l'homme. Bon, je peux très bien saisir cela, et cependant ignorer s'ils existent dans la réalité. Il est donc manifeste que l'essai est autre que l'essence ou l'acuité. Oui, c'est du Descartes, c'est de la vie saine, tout simplement. Et c'est du saint Thomas. C'est intéressant de voir ça, parce que là on trouve, vous voyez, quelque chose qui montre qu'il y a dans la pensée humaine une attitude, j'allais dire première, un peu comme des enfants, on pense le monde des essences. C'est beau le monde des essences, hein. C'est un immense avantage, c'est que ça ne vous tombe jamais sur la tête. C'est merveilleux le monde des essences. Vous êtes tranquille avec le monde des essences. C'est le ciel empiré, merveilleux le monde des essences. Et alors, l'exister, ça vient s'ajouter. Ça vient s'ajouter dessus. Alors, on peut penser l'essence de l'homme, l'essence du phénix, tout ce que vous voulez, indépendamment de son exister. Vous voyez, quand Descartes dit que le ti esti est avant le to oti, contrairement à ce que dit Aristote. Aristote dit que le to oti est premier, que le ti esti est second. Alors comprenez bien, ti esti, c'est l'essence. Le to oti, c'est l'exister. Et donc, quand Descartes dit que le ti esti est avant, et que le to oti est après, exactement ce qui est dit ici. Vous voyez, comme Descartes tient saint Thomas, hein, je peux baptiser et dire que Descartes est là, est en communion avec saint Thomas. Je comprends que Gilson ait trouvé ce lieu génial. Vous voyez, parce que c'est pas étonnant. Il s'est retrouvé en Sorbonne-Art. Il s'est retrouvé là, mais voilà, ah, je comprends, ça y est. On retrouve une filière, et on retrouve Avicenne. C'est intéressant parce que. C'est vrai, saint Thomas l'a pensé, il l'a pensé, mais il n'est pas resté là jusqu'au bout. Alors, donc voyez bien qu'on peut penser l'essence indépendamment, il est donc manifeste que l'essai est autre que l'essence ou l'acuité. La fameuse thèse thomiste, n'oubliez pas, dans toutes les réalités créées, il y a une distinction réelle entre l'essence et l'exister. Alors, dans toute réalité créée, c'est-à-dire un jugement de sagesse, quand je vous regarde dans la lumière de Dieu, ce qui est permis, même aux philosophes, quand je vous regarde dans la lumière de Dieu, je vois en Dieu, en vous, une fêlure fondamentale. C'est gênant de regarder cette fêlure. Je vois en vous une fêlure fondamentale, la fêlure métaphysique, la fêlure fondamentale qui fait qu'en vous, autre est votre essence, autre est votre exister. Vous êtes un cristal fêlé. Vous voyez ? Parce que votre être est fêlé. Il y a une fêlure fondamentale dans toute créature. Il y a une fêlure fondamentale. Le non-être est avant l'être. Mais quand les mystiques disent ça, vous voyez, ils disent le non-être est avant l'être. Ils ne disent pas l'essence est avant l'exister. Mais le métaphysicien peut dire, dans une vision de sagesse, il y a une distinction réelle entre l'essence et l'exister. À moins que peut-être, il existe une réalité dont l'acuité soit son essai. À moins que peut-être l'hypothèse. L'hypothèse, vous voyez, si je distingue bien ces deux mondes, le monde de l'essence et le monde de l'exister, je reviens tout de suite à cette hypothèse. Ah! Il y a peut-être quelque chose qui est au-dessus de la fêlure. N'est-ce pas? Il y a quelque chose. Tu restes dans un jugement de sagesse, on met que c'est dans la lumière de Dieu. Ici, je constate tout simplement, je dis que si de fait, en effet, l'essence est autre que l'essai, il peut y avoir un être dans lequel l'essence et l'exister ne font qu'un. À moins que peut-être il existe une réalité, aliquares, dont la quidité soit son essai propre. Et cette réalité ne peut être qu'unique et première. Donc une fois qu'on a dit l'hypothèse est tellement belle qu'on peut y aller. Hein. Et cette réalité ne peut être qu'une réalité unique et première, parce qu'il est impossible qu'une pluralité soit introduite dans quelque chose autrement que par addition d'une différence. C'est évident, quand vous êtes en face de quelque chose d'absolument indivisible, il ne peut pas se multiplier. La multiplication présuppose toujours la division. Toujours, ça, c'est bien évident. Or, pour pouvoir diviser, il faut qu'il y ait un divisible. Donc, il faut quelque chose de potentiel. Pour qu'il y ait quelque chose de potentiel, il faut nécessairement une composition. S'il n'y avait pas de composition, il n'y aurait rien de possible. Vous voyez, l'essence, qui est une détermination dans l'ordre de l'être, est du possible. L'essence peut exister. Elle n'existe pas nécessairement, puisqu'elle est autre que l'exister. Donc, elle peut exister. Et l'exister, lui, est acte. Relativement à ce possible. Il actue le possible. Et donc, vous avez bien le point de vue de l'essence qui est possible relativement à l'exister. Toute essence comme essence peut exister. Elle n'existe pas nécessairement. Puisque comme essence, elle est distincte de l'essai. Et donc cette réalité dans laquelle l'essence et l'existence sont un, ne peut être qu'unique. Or, si l'on pose une réalité qui soit seulement essai, de sorte qu'elle soit l'essai même subsistant, cet essai ne recevra pas l'addition d'une différence, parce qu'alors il ne serait plus essai seulement, mais essai et en outre une certaine forme. Il reste donc qu'une telle réalité qui soit son propre essai, son propre exister, ne peut être qu'unique. Il faut donc qu'en toute réalité autre qu'elle, autre soit l'essai, autre l'acuité. Vous voyez, nous sommes partis de la constatation, nous avons posé l'hypothèse, et une fois que l'hypothèse est tellement belle qu'elle existe nécessairement, on juge toutes les autres choses et on dit nécessairement dans toutes les autres réalités, il y a une distinction entre l'essence et l'essence. Vous voyez que ça ne prouve rien du tout. Hein. C'est merveilleux comme raisonnement. Hein. C'est un raisonnement avicénien extraordinaire. Je suis parti d'une constatation, je vois une hypothèse et dans la lumière de l'hypothèse, je vois toute chose. Alors, à partir de là, on dit, voilà, j'ai la preuve de l'existence de Dieu. Remarquons bien que la conclusion de ce raisonnement ne porte pas sur l'existence de Dieu, sur l'exister de Dieu. Après avoir ainsi démontré qu'en toute réalité autre que celle, si elle existe évidemment, dont l'acuité est son essai, la forme ou nature ou acuité est distincte de l'essai, et donc que dans l'intelligence, l'essai est distinct de la forme. Saint Thomas poursuit son argumentation. Donc après avoir dit ceci, il faut donc qu'en toute réalité, autre qu'elle, n'importe quelle autre réalité, autre soit l'essai, l'exister, autre l'acuité ou nature ou forme. Saint Thomas nous dit, or, tout ce qui convient à quelque chose, ou bien est causé par les principes de sa nature, comme le risible dans l'homme, ou bien advient en vertu de quelques principes extrinsèques, comme la lumière advient dans l'air par l'influence du soleil. Or, il ne peut se faire que l'essai lui-même soit causé par la forme même ou la quidité de la réalité. C'est pas ça, parce qu'elle est autre. Donc elle ne peut pas venir de ça. J'entends causer comme par une cause efficiente, parce qu'ainsi une réalité serait cause d'elle-même et une réalité se produirait elle-même dans l'essai, dans l'exister, ce qui est impossible. Il faut donc que toute réalité, telle que son exister est autre que sa nature, tienne l'essai d'un autre. Et parce que tout ce qui est par un autre se ramène à ce qui est par soi, comme à sa cause première, il faut qu'il existe une réalité qui soit cause d'être pour toutes les autres réalités, du fait même qu'elle-même est l'essai seulement. Vous voyez, la manière de prouver l'exister de Dieu, c'est très habile, hein. Je comprends très bien qu'on se laisse prendre à première vue, mais tout repose sur une hypothèse. Autrement, on irait à l'infini dans les causes, puisque toute réalité qui n'est pas essai seulement a une cause, son essai, comme on l'a dit. Il est donc manifeste que l'intelligence est forme et existée, et qu'elle tient l'essai de l'ens premier, qui est l'essai seulement. Et telle est la cause première qui est Dieu. Donc, à première vue, c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la pensée de saint Thomas, ce texte demande d'être lu et relu pour qu'on voit bien ce raisonnement du DNT Essentia et voir que ce raisonnement du DNT Essentia repose entièrement sur une hypothèse. Et que ce n'est pas une preuve de l'existence de Dieu. Mais c'est très intéressant. Alors là, Gilson a tout à fait raison. C'est très intéressant. Saint Thomas comprend dans ce passage ce qu'il va reprendre dans la Somme, mais non plus du tout pour montrer le point de vue de l'existence de Dieu, mais pour montrer la simplicité de Dieu. Et pour, ayant montré la simplicité de Dieu, montrer que toute réalité autre que Dieu implique laisser participer. Donc, implique laisser autre que son essence. Et là, nous sommes en présence de la grande thèse dite thomiste, qu'en toute réalité créée, il y a distinction réelle entre l'essence et l'existé. Mais dans ce texte lui-même, si je prends ce texte lui-même, il faut bien comprendre que cette argumentation repose sur une hypothèse. Nous avons cette fois une argumentation positive, non plus hypothétique, manifestant l'exigence de poser un ens premier, cause première qui est Dieu. Il faut qu'il existe une réalité qui soit cause d'être, et telle est la cause première qui est Dieu. Saint Thomas dit ça. Il faut qu'il existe une réalité qui soit cause d'être, et telle est la cause première qui est Dieu. Cependant, il faut bien saisir le caractère propre de cette argumentation et son intention profonde. Saint Thomas veut-il vraiment par là donner une démonstration de l'existé de Dieu? Il faut qu'il existe une réalité, ainsi de suite. Cette conclusion est-elle bien le terme d'un raisonnement? Est-ce que saint Thomas se proposait de démontrer? N'est-ce pas plutôt une étape? Oui, dans le raisonnement de saint Thomas, un moment. Autrement dit, regardez l'ensemble du DNT Essentia pour bien comprendre ce moment-là. Saint Thomas, en effet, continue. Or, tout ce qui reçoit quelque chose de quelqu'un est en puissance à l'égard de cela qu'il reçoit, et de ce qui est reçu en lui, et ce qui est reçu en lui est en acte. Il faut donc que la quidité elle-même, ou forme, qui est l'intelligence, soit en puissance à l'égard de l'essai qu'elle reçoit de Dieu. Et cet essai est reçu par mode d'acte. Et ainsi, la puissance et l'acte se trouvent dans les intelligences, mais non cependant la forme et la matière, si ce n'est de manière équivoque. Donc, quelle est l'argumentation de saint Thomas? Quel est le but de l'argumentation de saint Thomas? C'est de montrer que même dans les intelligences créées, les anges, il y a une distinction réelle entre essence et existé. Que même dans les intelligences premières, les intelligences séparées, donc les intelligences qui ne sont qu'intelligences, il y a une distinction en elles, entre essence et existence, donc il y a une certaine potentialité. Puisque partout où l'essai est reçu, l'essai est comme l'acte. Et ce qui reçoit l'essai est comme la puissance, que je vous disais ici. L'essence est possible. L'exister est l'acte. Donc, même dans une intelligence séparée, on est dans un contexte philosophique, et un contexte philosophique, ne l'oublions pas, qui est néoplatonicien. Or, dans un contexte philosophique néoplatonicien, on parle des intelligences pures. N'oubliez pas ça, dans un contexte néoplatonicien, on a toujours les trois hypostases de Plotin, La première, c'est là. La seconde, c'est le nous. Et la troisième, c'est là. Hein, la trinité plotinienne. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut comprendre que la trinité plotinienne, qu'on retrouve à travers tout le néoplatonisme, c'est donc là. L'un est au-dessus de l'être. L'un est au-dessus de l'être. L'un sans être. Ça, c'est du Plotin. L'un sans être. Dieu sans être. C'est du Plotin. Tout simplement. Le nous, il est au niveau de l'être. Et l'âme est dépendante du nous. Et l'âme va assumer le corps. Et par le corps, c'est l'univers. Donc c'est la matière. C'est l'âme qui fait l'intermédiaire entre l'esprit et puis la matière, le corps, hein, dans une perspective plotinienne, dans une perspective néoplatonicienne. Donc dans cette perspective néoplatonicienne, saint Thomas veut nous faire comprendre que le nous, l'intelligence pure, qui est dépendante de l'un, participe de l'essai. Et donc l'intelligence, parce qu'elle participe de l'essai, parce qu'elle participe de l'exister, elle implique une potentialité. Elle n'est pas acte pur. Elle est en puissance. Vous voyez, c'est ça que saint Thomas veut montrer. Pas du tout l'existence de Dieu. Il s'est servi de cette hypothèse pour nous faire comprendre qu'il ne peut exister qu'un seul être dans lequel l'exister et l'essence sont purs. Ça, c'est parfaitement vrai. Même à titre d'hypothèse. Je peux très bien émettre cette hypothèse. Si il y a une identification entre essence et existence, un tel être ne peut être qu'un. Il ne peut être qu'un. Il est absolument simple. Et il n'y a pas de composition, il est absolument indivisible. Donc, il est unique. Tout de suite après lui, dans toutes les autres réalités, il y a une distinction entre l'essence et l'existé. Alors ça, c'est très intéressant, vous voyez, parce que c'est saint Thomas qui, face à tout le grand courant platonicien et néoplatonicien, montre qu'il y a une petite faille. Parce qu'on ne peut plus dire que le nous est divin. Le nous séparé, le nous, l'intelligence pure, dépend de l'existé, reçoit l'existé, donc dépend nécessairement du premier. Et c'est ça qui est intéressant ici. Vous voyez ? C'est au fond une critique très sévère de saint Thomas au néoplatonisme. Et elle est très intéressante, en montrant que on ne peut pas, si on pense vraiment, on ne peut pas considérer qu'il puisse y avoir des niveaux dans le divin. Le divin est unique. Il est absolument indivisible. Il est unique. Et le divin, c'est là où il n'y a pas de distinction entre l'essence et l'existé. C'est une manière très belle de regarder ce point de vue-là. Alors, certains, considérant matériellement ce chapitre du DNT Essentia, y trouve une preuve de l'existé de Dieu, une preuve d'allure métaphysique, car elle s'appuie sur l'analyse métaphysique de l'être fini comme tel. Alors ça, il y a toute une série de gens qui disent ça. C'est pour ça que je dis, ils considèrent matériellement ce chapitre. Ils la considèrent même comme la preuve la plus profonde de saint Thomas, et la seule qui soit vraiment métaphysique. Je vous ai dit, c'est le père Gillet qui le premier a dit cela, il ne faut pas l'oublier, qui a été général de l'ordre, donc ça n'empêche pas qu'il puisse avoir dit ça. C'est dans son Thomas d'Aquin, n'est-ce pas ? Et à la suite du père Gillet, Gilson. Comme toujours, quand on aimait quelque chose de génial, il y en a d'autres qui suivent. Alors Gilson ensuite, en 1950, il résumait l'argumentation du DNT qu'il considérait lui-même comme une preuve de la manière suivante. Partant de la distinction d'essence et d'exister, qu'il vient de définir, saint Thomas fait observer que les notions d'essence finie, n'incluant pas leur existence, il est nécessaire pour expliquer qu'elles existent de poser un être dont les sens soient d'exister. Gilson nous offre deux voies également légitimes, chacune en son ordre, pour atteindre la composition des sens et d'exister, celle du DMT et celle de la somme. Bon, alors il faut bien comprendre que Gilson, à la fin de sa vie, n'a plus accepté cette position-là. Tandis que le père Gillet est mort dans sa position. C'est autre chose. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a là, dans le DNT Essentia, une position philosophique, qui considère une position, du moins, de commentateur de saint Thomas, qui considère qu'il y a là la preuve par excellence de saint Thomas. Si c'était ça, saint Thomas n'aurait pas éprouvé le besoin, dans la somme théologique, de nous donner cinq voies. Il aurait tout simplement repris le DNT. Parce que le DNT est beaucoup plus simple. Il y a une seule voie, c'est tellement plus agréable. Il y a une seule voie, et cette voie uniquement sur la distinction des sens et de l'existence. Toute la difficulté, c'est de comprendre cette distinction. Est-ce que, vous voyez, c'est ça la critique qu'on peut faire, est-ce que je puis, par l'expérience, saisir en moi-même la fêlure métaphysique de l'essence et de l'existence? Je crois que si vous saisissiez ça par vous-même, vous auriez une angoisse métaphysique effrayante. Parce que vous ne sauriez pas comment vous pouvez tenir debout. Vous êtes fêlé. Pas drôle de circuler quand on est fêlé. Alors, surtout ne touche pas, ça pourrait dégringoler. L'exister pourrait dégringoler, alors il ne resterait plus que l'essence, je serais impossible, je serais dans un monde tout à fait particulier, des êtres possibles. Alors, voyez, la question est là. Puis-je, par l'expérience, découvrir la fêlure fondamentale métaphysique de l'essence et de l'existence? Alors, n'essayez pas trop d'assaisir, hein, parce que je crois que vous deviendrez fêlé à ce moment-là. Complètement, il y aurait quelque chose qui n'irait plus. Mais on voit très bien, c'est ça la question, vous comprenez? Est-ce que je peux, par expérience, assaisir? Autrement dit, une autre manière de le dire, puis-je avoir l'expérience de laisser participer? Puis-je avoir l'expérience de laisser participer? Puis-je avoir en moi l'expérience de laisser participer? Si j'ai en moi l'expérience de laisser participer, j'ai donc l'expérience de la fêlure métaphysique, de l'essence et de l'exister. Saint Thomas ne le donne pas par mode d'expérience dans le DNT. Il affirme et il met l'hypothèse. Donc ce n'est pas du tout une preuve qui part de l'expérience. C'est tout simplement une tradition philosophique dans laquelle il entre sans justifier cette tradition et de montrer qu'il y a une distinction réelle entre l'existence et l'existé. Je n'insiste pas plus. Hein. Troisième moment de la pensée de saint Thomas que je crois très important. Dans un article du De Veritate, où il traite longuement la question de savoir si l'existé de Dieu, alors voyez la date hein, du De Veritate, parce que c'est intéressant de se rappeler cette date de saint Thomas, hein. Donc DNT 1253, De Veritate 1256-1259. Avec toujours un petit point d'interrogation. Hein. Parce que c'est les conclusions des historiens. Or, les conclusions des historiens, on les regarde avec beaucoup de respect, mais on attend qu'il y ait un autre historien qui dise l'inverse. Alors, on sait très bien qu'il y aura une autre thèse qui va dire qu'il y a autre chose. C'est toujours intéressant, parce que c'est des vérités qui sont... C'est très, très difficile. C'est très, très difficile de pouvoir vraiment, par le point de vue uniquement... La critique interne, saint Thomas n'a pas donné de référence autre, il n'a pas écrit sur ses manuscrits telle date. Hein. Il aurait pu le faire, écrit en telle année pour la gloire de Dieu. Il n'a pas fait. C'est écrit pour la gloire de Dieu, oui, mais l'année n'existe sans point d'importance pour la gloire de Dieu. Dans son article, dans un article du DNT, où il traite longuement la question de savoir si l'existé de Dieu, Deus, Deum esse, est évidente, pour l'esprit humain, comme les premiers principes de démonstration, dont on ne peut pas penser qu'ils ne sont pas. Saint Thomas s'oppose explicitement à la position de Saint Anselme. Ça, c'est très important à bien souligner. Donc, De Veritate, question 10, article 12. De Veritate, question 10, article 12. Saint Thomas s'oppose explicitement à la position de Saint Anselme. Ainsi du reste qu'à divers autres arguments utilisés par ses prédécesseurs ou ses contemporains. Donc Saint Thomas commence à avoir une maîtrise de lui-même et n'hésite pas de dire, eh bien dans la tradition il y a des choses fausses. Il commence à secouer la tradition. C'est en ce sens-là qu'on a dit Saint Thomas est un révolutionnaire. Hein, ce que le père Chenu ne cesse de répéter. C'est en ce sens-là qu'on a dit Saint Thomas est un révolutionnaire. Ce que le père Chenu ne cesse de répéter depuis 30 ans. Alors il répète, Saint Thomas est un révolutionnaire. Bon. Et c'est vrai que Saint Thomas, d'une certaine manière, a été libre par rapport à une tradition. C'est pas ça être un révolutionnaire. Être un révolutionnaire, ce n'est pas être libre par rapport à une tradition, ça veut dire tout simplement être intelligent. On n'identifiait pas être révolutionnaire et être intelligent. N'est-ce pas? C'est deux choses différentes. Secouer une tradition en voyant ce qui est intéressant dans une tradition et ce qui n'a pas de juste dans une tradition, c'est tout simplement être intelligent. Autrement dit, Saint Thomas, de plus en plus, découvre son autonomie intellectuelle. Mais il n'est pas révolutionnaire à cause de ça. Parce qu'il reste fixé à la finalité. Tant que vous restez fixé à la finalité, vous n'êtes pas révolutionnaire. C'est le jour où vous tournez le dos à la finalité que vous êtes révolutionnaire. Alors là, oui. Alors vous êtes anarchiste à ce moment-là et révolutionnaire. Tandis qu'au contraire, si vous poursuivez la finalité avec l'autonomie de l'intelligence, vous êtes intelligent. Et vous avez l'autonomie de l'intelligence. Parce que l'intelligence a en elle un désir d'autonomie. Et un désir d'autonomie qui permet d'être très accueillant vis-à-vis de la tradition. Plus on est autonome, plus on est accueillant. Il ne faut jamais l'oublier, du point de vue philosophique. Ainsi du reste, qu'à divers donc, arguments utilisés par ses prédécesseurs ou ses contemporains. Parmi les arguments proposés en faveur de l'évidence de l'exister de Dieu, et donc parmi les objections auxquelles saint Thomas va répondre, relevons celui-ci. Dieu a un essai plus vrai que l'âme humaine. Mais l'âme ne peut pas penser qu'elle n'existe pas. Elle peut donc encore bien moins penser que Dieu n'existe pas. Ça, c'est l'objection. Impossible pour moi. L'incipiens, c'est toujours l'incipiens. Dixit in corde suo, Deus non est. Il ne faut pas oublier ça, cette parole du psaume. Au Moyen-Âge, c'était un adage pour les chrétiens. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. L'insensé. Ça, c'est une parole de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, c'est une parole de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Eh bien, en tant qu'il dit que Dieu n'existe pas, il est insensé. Il peut être un homme merveilleux sous d'autres aspects, mais en tant qu'il dit que Dieu n'existe pas, il est insensé. Alors voyez, on essaie de montrer, alors, à partir de là, que Dieu donc est évident. Et l'évidence de l'existence de Dieu est très nette. Dieu a un essai plus vrai que l'âme humaine. On ne peut pas nier ça, puisqu'il a l'existé parfait. Mais l'âme humaine ne peut pas penser qu'elle n'existe pas. Quand vous réfléchissez sur vous-même, vous êtes bien obligé de dire que vous existez. Cogito ergo sum, vous voyez, Descartes. Cogito ergo sum, je pense donc j'existe. Dire que je n'existe pas, si vous arrivez à dire le matin, est-ce que j'existe? Est-ce que j'existe pas? Pendant toute votre méditation, est-ce que j'existe? Est-ce que je n'existe pas? Non, non, vous existez, c'est bien évident. Et vous le posez tout de suite. Hein. Or, l'existé de Dieu est plus évident que l'existé de l'âme, donc l'existé de Dieu s'impose d'une manière évidente. À cela, saint Thomas répond. Il y a deux manières. Alors ça, c'est très très important. Je crois que c'est un petit passage qu'il faut... Je vais faire comme Gilson, vous voyez. Je dis, c'est ça qui est très très important et qui donne la clé de tout le reste. Hein. Vous allez voir. Et c'est après Gilson, donc je suis déjà dans un saint Thomas un peu plus mûr. Il y a deux manières dont quelque chose peut être pensé, comme n'étant pas. D'une première manière, de telle sorte que les deux tombent simultanément dans l'appréhension. Cadente. Simultanément dans l'appréhension. Et ainsi, rien n'empêche que quelqu'un se pense comme n'étant pas. Comme il pense qu'à un moment donné, il n'a pas été. Cependant, il est impossible que tombe simultanément dans l'appréhension que quelque chose soit tout et moins que la partie, parce que l'un des deux exclut l'autre. Donc c'est contradictoire. Or c'est pas contradictoire, l'âme elle existait. Oui, donc ça on souligne quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas de contradiction. D'une autre manière, quelque chose peut être pensé comme n'étant pas, de telle sorte qu'à cette appréhension soit jointe l'adhésion, donc le jugement. Vous voyez, il y a l'appréhension et le jugement. Pour ceux qui s'intéressent à la distinction entre l'appréhension et le jugement, ce texte est très intéressant. De telle sorte qu'à cette appréhension soit jointe l'adhésion, la sensus. Et ainsi, nul ne peut penser avec adhésion, cum a sensus, qu'il n'existe pas. Car du fait même qu'il pense quelque chose, il perçoit qu'il est. Cogito ergo sum. C'est très intéressant à voir ça. Car du fait même qu'il pense, mais alors saint Thomas dit quelque chose. Il dit pas cogito. Il dit pense quelque chose. Il perçoit qu'il est. In hoc ipso quod cogitat aliquid percipit se esse. Très, très intéressant, le cogito ergo sum, percipit se esse. Il perçoit qu'il existe lui-même. Précisons, sur quoi porte exactement la réponse de saint Thomas? L'objection soutenait que l'âme humaine ne peut penser qu'elle n'existe pas et donc a fortiori que Dieu n'existe pas. Saint Thomas distingue. Au niveau de l'appréhension considérée en elle-même, l'âme humaine peut penser qu'elle n'existe pas. Tandis que si l'appréhension implique la sensus, c'est-à-dire le jugement qui porte sur l'essai, du fait même que l'âme humaine pense que quelque chose existe, elle perçoit qu'elle existe. Elle ne peut donc pas penser qu'elle n'existe pas. Saint Thomas reconnaît donc que la simple appréhension qui ne regarde que le possible ne nous permet pas de trancher entre l'essai et le non-essai, puisqu'on ne peut passer de l'intelligible à l'essai. Alors ça, je crois que c'est très important, c'est la grande critique de saint Thomas par rapport à saint Anselme. Oui, l'appréhension, alors là, il faut faire un petit peu se rappeler le langage de saint Thomas. Hein. Il faut donc bien comprendre ce que saint Thomas appelle par l'appréhension et le point de vue du jugement. Alors il dit ici adhésion. L'appréhension saisit les quidités. Donc l'appréhension saisit le possible. Elle saisit les essences. Le jugement, lui, adhère à l'essai ou n'adhère pas au non-essai. L'essai ou le non-essai n'est pas saisi par l'appréhension. Il est saisi par le jugement. Ça, c'est très très net, hein, et c'est intéressant à voir ça. C'est ce que Saint-Thomas reprendra tout le temps. Le jugement, l'objet propre du jugement, c'est l'ipsum esse rei. C'est l'ipsum esse rei. C'est l'existé même de la réalité. C'est cela que regarde le jugement. Le jugement regarde l'essai, l'existé. Tandis que l'appréhension saisit les fluidités, saisit les essences, saisit les réalités possibles. Et alors c'est un très gros problème, très grand problème de voir les rapports dans Saint Thomas entre appréhension et jugement. C'est un lieu très important celui-ci, parce que Saint Thomas est en face de Saint Anselme et il montre qu'au fond Saint Anselme n'a pas fait la distinction suffisante entre appréhension et jugement. Je ne peux pas passer du possible à l'acte. Je ne peux pas passer de la cluidité à l'exister. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que le possible en lui-même ne contient pas l'acte. Parce que la cluidité en elle-même n'existe pas. Puisqu'il s'agit d'une cluidité limitée. De sorte que je ne peux pas passer de l'un à l'autre. Il faut nécessairement une nouvelle expérience pour reconnaître si le point de vue de l'exister existe. Vous voyez, vous retrouvez to esti. Ce sont des distinctions qu'il faut essayer de saisir, ça. Des distinctions. C'est facile, hein, c'est facile, parce que dans le langage, quand vous pensez champ, vous pensez une essence, champ. Mais vous ne dites pas nécessairement que ce champ existe. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose de dire « ce champ existe » ou « champ ». Vous pensez « homme » et puis « tel homme qui existe ». Donc, dans le langage, on peut très bien distinguer les deux. L'appréhension saisit les possibles, le jugement saisit le point de vue. Alors, évidemment, c'est toujours l'intelligence, hein. Nous distinguons deux opérations dans l'intelligence. Nous distinguons le fait que nous sommes capables de penser les possibles et que nous sommes capables de regarder ce qui existe. Une petite distinction très importante que saint Thomas souligne ici. Il montre bien que c'est par le point de vue du jugement seul que j'atteins l'existé. Et si l'âme peut penser qu'elle n'existe pas, l'objection ne tient plus. Relevons encore un autre passage. Donc il y a ce premier passage qui est très intéressant parce qu'il est explicitement contre saint Anselme. Ce qui montre que saint Thomas, là, montre la confusion dans saint Anselme, c'est la confusion de l'appréhension et du jugement. Chez saint Anselme, cette distinction n'était pas encore très nette. C'est pas étonnant. Parce que saint Anselme est dans un climat néoplatonicien, et dans le climat néoplatonicien, la distinction entre appréhension et jugement n'est pas faite. C'est une distinction typiquement aristotélicienne. C'est intéressant de voir que saint Thomas la souligne ici face à saint Anselme. Relevons encore un autre passage du De Veritate. Se demandant si le monde est régi par une providence, De Veritate, question 5, article 2. Saint Thomas, après avoir rappelé l'erreur de ceux qui nient la providence parce qu'ils ramènent tout à la cause matérielle, montre que l'on ne peut prétendre que tout arrive par hasard. Car ce qui arrive par hasard arrive rarement. Or, nous voyons que ce qui convient ou ce qui est utile arrive dans les œuvres de la nature, soit toujours, soit la plupart du temps. Ça, c'est un mode de raisonnement très curieux que saint Thomas tient à Aristote. Le hasard, c'est nécessairement quelque chose qui arrive rarement. C'est du grand bon sens. Hein. Dès que vous voyez une chose qui arrive régulièrement, vous ne dites plus que c'est le hasard. Et c'est vrai, c'est ça. Dès qu'il y a une petite constante, vous dites, ah tiens, signe providentiel. Tandis que s'il arrive une fois, Ça peut être au hasard. Alors ne dites pas que c'est providentiel. Si chaque tuile qui vous tombe sur la tête par hasard, vous dites que c'est la providence, vous irez loin, n'est-ce pas ? Tandis qu'au contraire, si, sortant trois fois de la maison, trois tuiles successives vous tombent sur la tête, vous dites, tiens, tiens, il doit y avoir un petit ange gardien qui est là pour me rappeler que... Ça arrive une fois. Oui, c'est ce que disent les anciens. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais quand on en voit plusieurs, ah, c'est le printemps, c'est le signe, vous voyez. Alors c'est ça le point de vue, c'est curieux, mais c'est une constatation, ça, très simple. Alors saint Thomas nous dit ceci, il n'est donc pas possible que ces choses arrivent selon le hasard, oui, quand on sonne, ça c'est pas le hasard, et ainsi il faut qu'elles procèdent ex intentione finis. On tape selon l'intention de la fin. Ex intentione finis. Vous voyez ? Bon, c'est ça. La cloche, le signe, ex intentione finis. Selon une intention de la fin. Le hasard n'a pas d'intention. Le hasard est sans intention. Donc, c'est une distinction très importante que saint Thomas va prendre. Il va faire intervenir ici, pour la première fois, et c'est à l'égard de la providence, le point de vue de la finalité. Jusqu'ici, tous les raisonnements étaient pris de la cause efficiente. À partir du De Veritate, le raisonnement se prend à partir de la fin. Alors, on en verra toutes les conséquences.